Dans notre leçon précédente, nous étions en train de regarder effectivement la manière dont le récit biblique nous montre combien Dieu a été à l'œuvre pour sauver, pour manifester sa grâce, parce que nous sommes en train de regarder à la question de le christianisme, est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est plus qu'une religion? On avait vu ce que c'était que la religion et que même la Bible donne des définitions de la religion et on voit que tout est basé sur les œuvres. Et la religion, c'est beaucoup de nos actions par rapport aux autres dans le but de satisfaire une divinité. Et à travers le monde, les religions, c'est cet objectif-là, c'est de satisfaire la divinité pour éviter un châtiment. Et le christianisme, lui, nous montre eh bien, la relation que Dieu veut avec l'humanité. C'est une relation qui est basée sur le fait qu'il est amour. C'est une relation qui est basée sur le fait que Dieu, il est juste, il est saint. Et que malgré la rébellion du péché, Dieu a tout fait pour que l'humanité puisse avoir la possibilité de se sortir de cette condamnation, de cette juste condamnation du péché. Et nous étions en train de voir les différents événements aussi à travers l'Ancien Testament, comment Dieu avait montré sa grâce. Et on en arrivait donc au petit point 4 dans nos notes, par rapport au fait que dans les écrits de l'Ancien Testament, on voit un portrait qui se dresse, on voit le portrait d'un sauveur qui se dresse à travers les prophéties, à travers des personnes qui ont illustré les caractéristiques de celui qui est appelé le Messie. Alors, je tiens juste à mettre cette petite précision. C'est vrai que dans les notes, j'utilise aussi le mot type comme un exemple, mais c'est vrai que, en théologie, quand on va parler de typologie, de type de Christ, c'est que dans les Écritures, on va avoir dans le Nouveau Testament des textes qui vont précisément dire que voilà, dans l'Ancien Testament, voici une figure de Christ. Et c'est toujours lié en fait à des prophéties par rapport à Christ. Après, nous avons des personnes qui, eh bien, dans leur vie dans les choses qui leur sont arrivées, on voit des caractéristiques de Christ. Ce ne sont pas forcément donc des types de Christ, mais des caractéristiques. Et bien sûr, Adam est mentionné dans le Nouveau Testament, et on a cette relation qui est faite aussi par rapport à Christ, parce que Adam, voilà, le premier Adam, celui qui a péché, et le dernier Adam, Christ, celui qui a, eh bien, fait en sorte que le péché n'ait plus d'effet sur l'être humain, par rapport à la condamnation. Après, on a d'autres exemples comme Noé, le fait qu'il soit juste aux yeux de Dieu, Abraham, le fait qu'il soit le père d'un grand peuple, d'un peuple nombreux. Ce fameux personnage, Melchisédek, fameux, mystérieux à la fois, on sait très peu de choses sur lui, mais l'Épître aux Hébreux nous parle de Melchisédek et du fait que Jésus-Christ, il est comme Melchisédek, parce que Melchisédek était présenté comme, voilà, on connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, on ne voit pas de début ou de fin, mais c'est surtout l'aspect de son service sacerdotal en tant que sacrificateur qui est mentionné par rapport à Melchisédek. Ensuite, Isaac aussi dans Genèse chapitre 22, où on a une... Ce que moi j'appelle une préfiguration de ce que Christ allait accomplir. C'est-à-dire que on a Abraham à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils unique. Non pas que Dieu il cherche la mort et qu'il soit abominable comme ça. C'était un test, c'était une épreuve. Et dans le texte, on le voit très bien parce que à un moment donné, l'ange de l'Éternel dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que et c'était vraiment une épreuve pour Abraham. Mais on a l'exemple, voilà, de ce fils unique qui doit être offert en sacrifice. Et ça, c'est une image de ce que Christ allait accomplir. Mais on a Joseph, et Joseph, c'est vraiment une image extraordinaire dans sa vie, les choses qui lui sont arrivées, où on peut tirer beaucoup de liens également avec la vie de Christ, le fait que il a été haï par ses frères. J'ai mis sans raison. Il y en a qui vont mettre la raison qu'ils étaient jaloux. Je crois que les pharisiens aussi étaient jaloux du Seigneur Jésus-Christ. Mais le fait d'avoir de la haine pour une personne qui finalement est innocente, entre guillemets, hein, Joseph n'avait rien fait contre ses frères. Mais voilà, il a été maltraité, il a fait l'objet de complots, il a été dépouillé, hein, de ses vêtements, il a été vendu pour de l'argent, il a été accusé à tort, hein, par le mensonge. Et placé en captivité, même avec deux hommes coupables, si vous voulez mettre une image encore plus parlante, hein, mais surtout le fait qu'il a été à un moment donné donc méconnu des siens. Quand ses frères sont arrivés en Égypte, alors que Joseph était numéro 2 en Égypte, ses frères ne l'ont pas reconnu, ils ne savaient pas qui il était, tout comme lorsque Christ est venu, ils n'ont pas connu qui il était, hein, la parole est venue, hein, chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et ça nous montre qu'à travers l'Ancien Testament, donc on voit à travers des personnes qui ont existé des éléments qu'on va retrouver en Jésus-Christ. Le ministère prophétique de Moïse, la vie victorieuse de Josué, le ministère royal de David, la sagesse de Salomon, le fait qu'Élie était aussi le précurseur, hein, Élisée, les miracles, la résurrection de Christ qui est utilisée. Bon, on utilise. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, hein, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas, hein, par rapport à sa mort et sa résurrection, tout comme Jonas était eh bien, trois jours, hein, dans le ventre du poisson. Le Seigneur Jésus également allait passer ce même temps enterré. Et donc, différentes personnes comme Jérémie, les douleurs qu'il a connues, le zèle d'Esdras pour les Écritures, le zèle de Néhémie pour la ville sainte, etc. Mais c'est pour montrer que quand on prête attention à la lecture de l'Ancien Testament, on voit à travers ces personnes-là un portrait qui se dresse et qui, quand on lit le Nouveau Testament, paraît tellement évident. C'est, on voit l'image, hein, si vous voulez, les caractéristiques, hein, qui se développent. À travers l'Ancien Testament, et on va retrouver tous ces éléments dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est bien là la différence, je dirais aussi, du christianisme vis-à-vis des religions, c'est que il y a vraiment une personne extraordinaire au centre. Alors vous allez me dire, ben, les autres religions aussi. Hein, l'islam va dire, on a Mahomet. Mais Mahomet, ils le considèrent, bon, comme leur grand prophète. Christ, déjà par rapport à la manière dont lui s'est présenté à l'humanité, tous ces aspects de sa personne, de son humilité, de son amour, de son service, ce sont toutes sortes de choses que tout le monde apprécie. Apprécie tellement que, eh bien, la plupart des religions veulent s'approprier Jésus. L'islam le voit comme un grand prophète. Et le christianisme, ben, nous montre que Jésus est bien plus qu'un prophète. Mais parmi les autres religions et les diverses sectes de ces différentes religions, on peut noter également le drusisme, qui est une doctrine philosophique qui est fondée sur l'initiation à une partie ésotérique de l'islam. Et cette secte musulmane voit Jésus comme le plus grand imam, l'incarnation de la raison ultime sur terre, le premier principe cosmique, et bon, tout un tas de paroles, hein, de florilège à son égard, mais considère donc Jésus et Hamza ibn Ali comme des incarnations de l'une des cinq grandes puissances célestes qui font partie de leur système. Donc, y a dans ce mouvement, si vous voulez, hein, de cette secte qui existe, il croit que, en fait, cet autre personnage-là que je viens de citer, Hamza ibn Ali, c'était une réincarnation de Jésus. Donc ils ont une croyance dans le fait que voilà, il y a une possibilité que les personnes se réincarnent et que Jésus donc se serait réincarné donc dans ce personnage. Mais Il y a cette idée vraiment que on cherche à s'approprier Jésus sans vraiment regarder à ce que disent les Écritures à son sujet. Et là, dès qu'on fait cela, ben, comme dans cette secte, on commence à avoir toutes sortes d'idées bizarres et tordues, comme quoi. Également, hein, ce Hamza, c'est lui qui aurait finalement vraiment dirigé les actes du Messie, hein, de Jésus, le fils de Joseph. Mais lorsque Jésus, hein, le fils de Joseph et Marie s'étaient apparemment écartés du droit chemin, du vrai Messie, Hamza a rempli le cœur des Juifs de haine contre lui. Et c'est pour ça qu'il aurait été crucifié. Donc, vous voyez un peu, on veut s'approprier un aspect de Jésus, mais pas accepter qui est Jésus. Et puisqu'on ne veut pas accepter ce qui est dit de Jésus ou ce que Jésus a dit de lui-même, eh bien on va inventer toutes sortes d'histoires sans avoir de fondement, sans avoir de quoi que ce soit qui prouve ce genre de théorie. Alors ça serait même ce Hamza qui aurait même descendu Jésus hein, de la croix, etc. Et bon, bref. Toutes sortes de choses vraiment qui ne se trouvent pas dans la Bible. Nous avons également, pour ceux qui connaissent, ils ont peut-être déjà entendu parler de la foi bahaï. C'est une religion qui est monothéiste, qui a été fondée en 1863 et qui leur philosophie, c'est que voilà, il y a une unité spirituelle pour l'humanité qui est accessible aux êtres humains. Et les membres de cette communauté religieuse se décrivent comme ben, des membres d'une religion mondiale indépendante. Hein, si vous voulez, on cherche à vraiment regrouper un peu tout le monde. Et donc, pour les Bahaïs, Adam, Abraham, Moïse, Zarathoustra, Krishna, Bouddha, Jésus-Christ, Mahomet et plein d'autres encore seraient des manifestations de Dieu. D'accord? Et même, il existe aussi certaines mouvances chrétiennes, qui se disent chrétiennes en tout cas, qui voient Jésus comme une manifestation de Dieu et non pas comme étant Dieu. Hein, vous avez des chrétiens qui ne croient pas en la Trinité, par exemple. Et donc pour eux, Jésus, c'est une manifestation de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. Mais donc pour la foi bahaï, hein, ils considèrent Jésus comme une manifestation de Dieu. À une série de personnages qui reflètent les attributs du divin dans le monde humain pour le progrès, pour l'avancement moral de l'humanité. Les hindous, hein, beaucoup d'hindous, y compris les chefs religieux et politiques, ont tendance à vénérer Jésus comme une incarnation de la divinité. Certains hindous et Hare Krishna affirment également que Jésus a été prédit ou prophétisé hein, dans leurs propres écrits. Mais malgré l'attrait que ces religions peuvent avoir pour le Christ, il n'en demeure pas moins que il n'accepte pas qui il est tel que la Bible nous le présente. La Bible nous présente Jésus-Christ vraiment d'une manière claire et précise. Que ce soit Jésus-Christ lui-même dans les évangiles qui a clairement montré, déjà par ses œuvres, ses actions, qu'il est Dieu. Il n'a jamais nié être Dieu. Il a même dit lui-même, hein, le Père et moi sommes un. C'est dire. Je suis Dieu, hein, d'ailleurs, hein, les Juifs voulaient le lapider hein, pour ses propos. Mais dès qu'on s'écarte de ce que la Bible enseigne au sujet de Christ, déjà on n'est même plus dans le christianisme. Mais Jésus-Christ donc est vraiment la personne centrale des Écritures de la Bible. Il est présent donc dans l'Ancien Testament, non pas sous le nom de Jésus-Christ. Ni même sous la forme qu'on le connaît dans le Nouveau Testament, mais il est néanmoins présent dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ est vraiment le thème central de toute la Bible. On a déjà eu l'occasion de parler hein, du fait que dans Genèse chapitre 3, hein, on a ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire qu'on a une première promesse de ce que Dieu allait agir, accomplir pour que l'humanité ne soit plus hein, sous cette condamnation du péché. Mais on a vu aussi hein, des différents types ou figures de Christ dans l'Ancien Testament, mais Voilà, on a ce qu'on appelle, on en a déjà parlé aussi au début de notre étude au sujet des révélations de Dieu. On a parlé des Christophanies, le fait que, voilà, on voit dans l'Ancien Testament clairement dans des passages un personnage, souvent il est appelé l'ange de l'Éternel, qui accomplit des choses extraordinaires, mais aussi qui parle de lui-même comme s'il parlait de l'Éternel. Qui montre clairement que ben, c'est Dieu qui est présent là, c'est lui qui est en train de parler. Et donc ces Christophanies, hein, ces apparitions préincarnées du Fils de Dieu, hein, on a vu ça dans la section 3 hein, de notre étude, hein, et vous pouvez y retourner pour revoir ces choses-là. Mais par exemple, dans Genèse 18, on a une de ces Christophanies, hein, lorsque le Seigneur apparaît à Abraham sous une forme humaine, on a visiblement là la présence divine. Et de telles rencontres comme ça, des rencontres tangibles avec la divinité, sont disséminées un peu partout à travers les Écritures. Hein, on le retrouve dans Genèse, dans le livre des Juges, dans Deux Rois, ou même dans Daniel. Daniel, avec ses trois comparses, dans la fournaise ardente. Là aussi, c'est évident qu'ils étaient dans la présence de Dieu à ce moment-là. Hein, mais voilà, on a tous ces éléments-là. On a le fait que Jésus lui-même a déclaré à plusieurs reprises que les Écritures saintes parlaient de lui. Hein, dans Jean chapitre 5, pardon, et verset 46, il avait même expliqué à certains chefs religieux que l'Ancien Testament parlait de lui. Hein, il dit, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit à mon sujet. C'est-à-dire que dans ce que Moïse a écrit, et Moïse, on considère comme celui qui a écrit justement les cinq premiers livres, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et dans ces livres-là, effectivement, bon, dans la Genèse, on a parlé hein, de proto-évangile, on a déjà les promesses concernant le Messie. Dans la loi, on comprend bien hein, le rapport que l'être humain doit entretenir avec Dieu, mais aussi le fait qu'il y a un problème dans cette relation-là, et c'est le péché. Mais Moïse parle du Messie, parle de Christ, et donc il les reprend là-dessus. Si vous aviez bien lu les Écritures, si vous aviez bien étudié les choses, et si vous les acceptiez, vous reconnaîtriez qui je suis. Deutéronome 18, verset 15, et nous lirons le verset 18 également. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et donc là, quand Jésus il dit, voilà, Moïse a écrit à mon sujet, il fait référence notamment à ces deux versets-là. Mais avant sa crucifixion, le Seigneur avait également cité Ésaïe 53, verset 12, et déclaré, je vous le dis, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Le fait que justement Christ, c'est pas simplement que il a été crucifié entre deux brigands et on dit, ah, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Non, on avait vu aussi que la crucifixion était vraiment considérée comme un châtiment extrêmement horrible physiquement, mais aussi par rapport à la réputation de la personne, c'était maudit quiconque est pendu au bois. On avait vu que cette mort-là, cette mort spécifique, c'était vraiment considérée comme la malédiction ultime. Hein, par rapport à la manière de mourir. Mais voilà, il a été considéré, lui le juste, comme un malfaiteur. Hein, lorsque la foule a eu le choix de choisir entre avoir Jésus libéré et un brigand notoire, n'est-ce pas, un criminel, la foule a fait le choix de l'injustice et a fait en sorte que Jésus soit vu, mais aussi traité comme un malfaiteur. Après sa résurrection, Jésus aussi a démontré sa présence dans l'Ancien Testament à deux de ses disciples, hein, dans Luc chapitre 24 et verset 27, et on lit que Jésus, il a pris le temps avec eux, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On a déjà parlé de cela par rapport aux prophéties, hein, que y a au moins plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la vie du Messie, qui parlent de Jésus-Christ, qui montrent, voilà la direction de celui que Dieu va envoyer, voilà à quoi il va ressembler, voilà les caractéristiques, voilà ce qui va se passer dans sa vie, voilà ce qu'il va accomplir. Et on a des prophéties extraordinaire, hein, comme celle de sa naissance, hein, dans Ésaïe 7,14, de son ministère qu'il allait accomplir aussi dans Ésaïe 61, et même la manière dont il allait mourir, hein, dans le psaume 22. Jésus, oui, il a, dans son ministère, choqué l'establishment religieux, n'est-ce pas? Et déjà, ça nous montre aussi un premier indice par rapport à la question. Hein, le christianisme, est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une religion comme les autres? Le simple fait déjà que Jésus est condamné, bah, la religion des hommes de son époque montre que pour Dieu, c'est bien au-delà de la religion qu'il attend que nous intervenions. Il attend que nous intervenions dans notre rapport avec lui. Hein, dans cette relation à laquelle il nous a appelés. Donc, il fait aucun doute que Jésus-Christ soit le thème de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et donc de la Bible tout entière. Mais sur la question, encore une fois, et on verra cela un peu plus en détail, Dieu voulant, la semaine prochaine, mais par rapport à la personne même de Christ. Dans aucune religion, il y a une figure semblable à la sienne. Si, parce qu'il se l'approprie quelque part. Mais il n'y a personne qui, comme Jésus-Christ, a déclaré les choses qu'il a déclarées, accompli les choses qu'il a accomplies, et surtout a transformé la vie des gens telle que ça a été le cas. Et je sais que j'ai souvent utilisé ces exemples-là, hein, de voir comment Pierre a été changé, hein, de ce disciple impétueux, ce disciple qui n'avait pas peur de dire les choses, mais au moment clé, hein, finit par renier le Seigneur Jésus 3 fois. Mais après la résurrection de Christ, où Pierre il a pu constater la puissance divine de Christ, de sa victoire sur la mort, sur le péché, sur la corruption, que Christ ait pris le temps de discuter avec Pierre et de le relever et de voir les premiers chapitres du livre des Actes et de voir Pierre qui est complètement transformé finalement. Il n'est plus ce disciple impétueux et oui, mais on voit le véritable courage que donne l'évangile. De Pierre qui n'a pas peur de s'adresser à une grande foule, de Pierre qui n'a pas peur de se retrouver face au Sanhédrin, d'être accusé et de ressortir de là joyeux, joyeux d'avoir été maltraité parce qu'ils ont prêché le nom de Jésus-Christ. Une grande différence. Saul de Tarse, c'est extraordinaire la transformation que Dieu a accomplie dans la vie de cet homme-là. Hein, rappelez-vous que Saul de Tarse, il était là aussi présent lorsque Étienne se faisait lapider par la foule de Juifs, alors qu'Étienne venait de leur présenter l'Évangile dans toute sa simplicité, dans sa beauté, et que en réponse, c'est la haine qu'il a reçue, une haine qui a amené cette foule à le lapider. Et de voir que même dans ce moment-là, Étienne a eu le même regard de compassion que le Seigneur Jésus a eu sur la race humaine au moment de sa crucifixion. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment un changement d'optique, de perspective, de vie puisse être aussi profond que cela? Parce que je crois que si pour la plupart des gens, et même pour la plupart des gens religieux, je crois que beaucoup serait en train de maudire ceux qui sont en train de l'agresser. Mais Étienne, non. Il a prié pour eux. Et donc Saul de Tarse, qui torturait, qui maltraitait, qui emprisonnait, qui mettait à mort les chrétiens à cause de leur foi, et qui, du jour au lendemain, sa vie a basculé, transformé, métamorphosé. Pourquoi? Christ. Et il n'y a personne qui a un tel pouvoir de transformation dans la vie des gens. Et ce n'est pas juste une transformation dans le sens de, ah bien, ils ont changé de la manière de vivre. Hein, ce n'est pas juste un drogué réformé ou un ancien alcoolique qui a arrêté, etc. Ça va au-delà de cela. Parce que le message de l'évangile, ce n'est pas juste que Dieu nous aide à nous sortir hein, de ce que les gens appellent ces démons de l'alcool, etc. Mais on a chanté tout à l'heure, tu peux naître de nouveau. On a chanté, tu peux boire de cette eau. Et on a vu que l'évangile de Christ, il transforme, oui, notre manière de vivre, notre manière de voir les choses, mais il nous transforme aussi spirituellement. Et ça, y a rien de comparable entre ce que Christ a accompli et ce qu'il a apporté dans la vie des gens à travers les siècles. Y a rien de comparable. Mais on verra, hein, Dieu voulant, donc la prochaine fois, encore une fois, sur la personne de Christ, mais surtout de voir les choses qu'il a déclarées de lui-même, qui finalement doivent nous amener à prendre position par rapport à qui il est. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons vu ce soir?